juillet 2001, une ville italienne transformée en véritable forteresse. Et oui, des barrages, des points de contrôle, des blindés dans les rues, des hélicoptères dans le ciel. Et face aux forces de l'ordre, près de 200 000 manifestants venus protester contre le sommet du G8. Catholiques pacifistes, syndicalistes, écologistes, militants d'extrême gauche, ils se retrouvent autour des causes altermondialistes et contestent une mondialisation économique dont ils dénoncent les conséquences sur l'environnement et les conditions de vie. Mais en trois jours, du 19 au 21 juillet 2001, Gênes va devenir le théâtre d'une répression d'une violence exceptionnelle. Un jeune homme de 23 ans, Carlo Giuliani, est tué d'une balle dans la tête. Des manifestants sont frappés. Des arrestations arbitraires se multiplient et dans une caserne militaire, un véritable centre de torture est mis en place. 25 ans plus tard, l'Italie n'a toujours pas surmonté le traumatisme de Gênes. Pourquoi cet événement reste-t-il aussi présent dans la mémoire italienne? Et surtout, pourquoi cette question revient-elle avec autant de force aujourd'hui? Bienvenue pour ce nouvel épisode de Mocap Politique et pour cet épisode en tout cas qui, je l'espère, va permettre de décrypter cet événement majeur de l'Italie. Gênes, l'été où tout a basculé, à l'été 2001, Gênes accueille donc le sommet du G8. Pendant trois jours, la ville devient le centre, l'épicentre de la tension internationale. Près de 200 000 activistes manifestants sont présents et arrivent. Ils viennent d'horizons très différents, on l'a dit, catholiques, syndicalistes, écologistes, extrême gauche. Ils se retrouvent autour des mouvements altermondialistes qui prennent alors beaucoup plus d'importance. Leurs critiques portent notamment sur une économie mondiale toujours plus intégrée et sur ce qu'ils considèrent comme ses conséquences négatives et néfastes pour l'environnement et pour les conditions de vie d'une grande partie de la population mondiale. Mais à Gênes, à ce moment précis, la contestation va rapidement se transformer en affrontement. Certains manifestants sèment le chaos dans les rues et face à eux, les forces de l'ordre déploient un dispositif massif. La ville est quadrillés. Les barrages se multiplient, les gaz lacrymogènes envahissent les rues, les blindés circulent, les hélicoptères survolent la ville. Mais selon le récit du journal Le Monde, pendant ces trois jours, les règles de l'état de droit vont être suspendues, laissant place à une brutalité extrêmement importante de la part des forces de l'ordre. Et c'est cette violence qui va profondément marquer l'histoire politique italienne. Carlo Giuliani, un nom, un visage de l'Italie. Le 20 juillet 2001, Carlo Giuliani a 23 ans. Il participe aux affrontements, comme tant de nos jeunes de cet âge-là. Lorsqu'il s'approche d'un véhicule des carabiniers, il tient un extincteur, un carabinier lui tire une balle dans la tête. Carlo Giuliani meurt. Son décès va immédiatement devenir l'un des symboles de Gênes. Mais 25 ans plus tard, il est devenu bien plus que cela. Pour une partie des Italiens, Carlo Giuliani représente une génération entière, une génération qui croyait encore à la possibilité de transformer profondément la société. Une génération pour laquelle Gênes a parfois et surtout marqué la fin des idéaux et de l'activisme. En juillet 2026, 25 ans après sa mort, sa mémoire est toujours très présente. Le 19 juillet, la stèle qui lui est consacrée à Gênes est couverte de fleurs pour lui rendre hommage. Et un détail particulièrement symbolique rappelle les circonstances de sa mort. Deux extincteurs sont placés autour de la stèle, en référence à l'objet qu'il tenait lorsqu'il menaçait le policier qui lui a tiré dessus juste après. Mais l'affaire Giuliani ne représente qu'une partie du traumatisme, car dans les heures qui suivent, d'autres violences vont bouleverser l'Italie. L'école Diaz, une nuit qui reste dans les mémoires. Dans la nuit du 21 au 22 juillet 2001, la police intervient dans l'école Diaz. Le bâtiment sert notamment de logement à des militants pacifiques. L'intervention est extrêmement violente. Des agents équipés pour les opérations anti-émeutes frappent les personnes présentes. Plusieurs sont grièvement blessés, mais l'affaire va prendre une dimension encore plus grave lorsqu'une enquête révèle que deux cocktails Molotov ont été placés dans le bâtiment afin de justifier l'opération. Autrement dit, les autorités ne sont pas seulement accusées d'avoir fait l'usage d'une force disproportionnée, elles sont également accusées d'avoir fabriqué les éléments permettant de justifier cette intervention. Et les violences, elles ne s'arrêtent pas à l'école Diaz. Elles se poursuivent dans la caserne de Bolzaneto. Le lieu est transformé en site de détention irrégulière et en centre de torture. Des manifestants y subissent des passages à tabac. Certains sont maintenus dans des positions douloureuses pendant de très nombreuses heures. Ils sont humiliés. Certains sont contraints de chanter des hymnes fascistes ou des chants à la gloire d'Augusto Pinochet, le dictateur chilien. C'est donc tout le fonctionnement de l'État qui se retrouve questionné. Et la réaction internationale est particulièrement forte. Une violation des droits de l'homme. Un an après les événements, Amnesty International dresse un constat sans appel. Des plus sévères. L'organisation considère que la répression des participants au contre-sommet de Gênes du G8 constitue une violation des droits de l'homme d'une ampleur sans précédent dans l'histoire récente de l'Europe. Cette phrase va rester. 25 ans après, elle continue d'être rappelée dans les médias italiens, dans les podcasts, dans les documentaires et à travers les associations qui se sont créées. Parce que Gênes n'est pas seulement le souvenir d'une manifestation qui aurait pu dégénérer. Cela est bien plus profond. C'est devenu, pour une partie de la société italienne, le symbole d'une rupture de confiance entre les citoyens et les institutions chargées de les protéger. Et cette question prend aujourd'hui une résonance toute particulière. Pourquoi ? Parce qu'il existe un lien direct entre les responsables politiques de 2001 et l'Italie actuelle. De Gianfranco Fini à Giorgia Meloni. En 2001, la supervision des opérations de sécurité à Gênes revient notamment à Gianfranco Fini. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous l'expliquer tout de suite. À l'époque, il est vice-président du Conseil. Il est présent dans la salle de contrôle du dispositif des forces de l'ordre et exerce de fait les fonctions du ministre de l'Intérieur. Fini, il est issu de la droite néofasciste italienne. Il a notamment été un des disciples, on pourrait dire, de Giorgio Almirante, ancien responsable du régime mussolinien, devenu homme politique après la guerre. Mais ce qui rend son rôle particulièrement intéressant aujourd'hui, de ce que l'on peut analyser, c'est ce qu'il est devenu ensuite, et c'est ce qu'il a fait. Gianfranco Fini sera le mentor politique de Giorgia Meloni, et Giorgia Meloni est aujourd'hui, comme on le sait, présidente du Conseil italien. L'anniversaire de Gênes prend donc une résonance particulière dans une Italie gouvernée par une dirigeante issue de cette même droite. 25 ans après, l'histoire de Gênes n'est donc pas complètement séparée de la politique italienne contemporaine. Mais il y a une autre raison pour laquelle cette histoire revient aujourd'hui. Est-ce que cela pourrait se reproduire ? De nouveau. Dans une tribune publiée à l'occasion des 25 ans du G8, Riccardo Nuri, porte-parole d'Amnesty International Italia, pose une question particulièrement inquiétante. Est-ce que cela pourrait se produire à nouveau ? Et il va même plus loin. Selon lui, une autre Gênes pourrait déjà avoir vu le jour, mais de manière fragmentée et diluée dans le temps. Pourquoi cette inquiétude ? Parce que les violences policières ne sont pas seulement un souvenir. Au cours de l'année écoulée, deux personnes sont mortes aux mains de la police en Italie. L'une d'elles est morte le 19 juillet 2026 à Bologne, à la veille du 25e anniversaire de Gênes. La question devient donc profondément contemporaine. Elle ne porte plus uniquement le nom de ce qui s'est passé en 2001 lors des manifestations du G8. Elle porte sur la manière dont l'État italien exerce aujourd'hui son pouvoir et sur les garanties qui doivent empêcher que de telles violences puissent se reproduire. Et des responsables toujours dans l'appareil sécuritaire. Et c'est peut-être l'un des éléments les plus troublants de cette histoire. Les fonctionnaires responsables des violences de 2001 n'ont pas tous vu leur carrière s'arrêter après Gênes. Plusieurs ont au contraire été promus au cours des 25 dernières années et ont occupé des positions importantes dans l'appareil sécuritaire italien. Pendant ce temps, le bilan judiciaire des événements est resté relativement limité. Autrement dit, pour de nombreux Italiens, le sentiment demeure que la réponse institutionnelle n'a pas été à la hauteur de l'ampleur des violences. C'est aussi ce qui explique pourquoi Gênes continue de hanter les milieux progressistes, politiques et surtout associatifs. Mais également les Italiens attachés au principe de la démocratie libérale. Gênes, une ville qui n'a pas oublié. 25 ans après, la mémoire de Carlo Giuliani reste donc très présente, mais elle se confronte aussi à une nouvelle réalité politique. À proximité du mouvement consacré à Carlo Giuliani se trouve aujourd'hui le siège local de Casapunt, une organisation néo-nazie violente. L'organisation a désormais pignon sur rue. Une mobilisation citoyenne cherche actuellement à obtenir son départ. Et parmi les personnes mobilisées se trouve un homme de 100 ans, Giordano Bruschi, ancien résistant. Le symbole est particulièrement fort, un ancien résistant contre le fascisme mobilisé un quart de siècle après la mort de Carlo Giuliani, contre la présence d'une organisation néo-nazie dans le voisinage du monument qui lui est consacré. La mémoire de Gênes continue donc de se construire dans les rues mêmes de la ville. 25 ans après le G8 de Gênes, reste toujours cette plaie, cette blessure ouverte. Une blessure liée à la mort de Carlo Giuliani, à l'école Diaz, à Bolzaneto, aux violences policières qui continuent, aux arrestations arbitraires, mais surtout à une question beaucoup plus profonde. Que se passe-t-il lorsque ceux qui sont chargés de protéger l'État, de droit, sont eux-mêmes accusés de le bafouer ? Gênes n'est pas seulement une histoire de 2000 ans. Elle est aussi une histoire de mémoire, une histoire de justice, une histoire, et surtout, de responsabilité politique. Une histoire qui continue de résonner dans l'Italie de 2026, dans la France de 2026. Car comme le demande aujourd'hui Amnesty International, est-ce que cela pourrait se produire de nouveau ? 25 ans après, l'Italie n'a toujours pas complètement répondu à cette question. C'était Mocha Politique, votre épisode politique italienne. Et à bientôt pour un nouvel épisode.